are powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire à du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien cet été, nous avons célébré les femmes puissantes, écrivaines, dirigeantes, rabbines, femmes politiques, photographes ou actrices. Bref, Sophie de Closet, patronne de maison d'édition et dans Femmes Puissantes.
Femmes Puissantes, Léa Salamé sur France Inter.
Alors c'est où le bureau de la patronne ?
Alors, au cinquième étage.
Bon, on va monter. Bonjour, vous allez bien ?
Très bien.
Enchantée. Merci de nous recevoir chez vous dans votre bureau donc.
Mais oui, venez donc.
Dans votre antre. Ah, il est pas mal.
Ouais.
Et alors, c'est quoi ça ?
C'est la programmation.
Ah oui, donc je vais lire qui vous programmez à la rentrée. Il y a du scoop, je peux ?
Il y a des noms de code et parfois même je mets des noms de code et puis après je sais plus ce que c'est. La merde, c'était quoi, Babar ?
Babar. Voilà, c'est Michel Obama.
Et donc voilà, donc je cherche.
Et donc ça, c'est tout ce que vous publiez, donc écrit en post-it, dans des post-it de toutes les couleurs, en septembre, octobre, novembre prochain, février 2020.
Ouais, 2020, c'est pas encore.
Et alors, c'est quoi le gros coup que vous publiez d'ici un an ?
Le gros coup, moi, j'espère qu'il y en aura plusieurs. Ben, on espère qu'un jour Barack Obama aura fini d'écrire son livre quand même.
Ah ouais, il tarde.
Enfin, on est impatients.
Très bien. On s'installe ?
Mais ouais, volontiers.
Merci.
On dit que c'est une femme de coups, une killeuse, un bulldozer. Elle a été propulsée patronne d'une des plus grandes maisons d'édition françaises. Fayard a même pas 35 ans. Elle dirige 40 salariés, a publié le plus gros succès de l'année, la biographie de Michel Obama. Rajoutez à cela qu'elle est grande, belle, qu'elle a un mari génial et deux enfants. Bref, c'est un peu la femme parfaite, celle qui coche toutes les cases. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Elle nous a reçus dans son bureau où la clim fait des siennes. Sophie de Closet est dans Femmes Puissantes. Sophie de Closet, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
Je vous réponds que j'ai l'impression que vous adressez à la personne morale, mais pas à la personne physique. C'est-à-dire, ce qui est puissant, c'est les livres, c'est Fayard. Et donc du coup, en tant que PDG de Fayard, je comprends ce que vous me dites. Mais moi, Sophie toute seule, ça n'a pas de sens pour moi.
C'est quoi la définition de la puissance pour vous ?
Ben, c'est la possibilité de pouvoir faire des choses.
C'est ça ?
Ouais, bêtement. C'est le pouvoir et la puissance, il y a un truc de capacité, de légitimité. C'est la façon d'avoir en quoi vous pouvez, vous, faire des choses qui ont un impact ou un effet. Ouais. C'est la puissance des choses que vous pouvez faire.
Pourquoi c'est toujours suspect chez les femmes, la puissance ? À votre avis, la puissance comme l'ambition. L'ambition chez un homme, c'est super, chez une femme, c'est un gros mot.
On est sûr de ça ?
En tout cas, à chaque fois que je pose la question, chaque fois que je demande à une femme, vous êtes une femme puissante, on a l'impression que c'est non, je me sens pas puissante, c'est prétentieux d'être puissant, ça installe un rapport de force d'être puissant, comme si c'était réservé aux hommes.
Mais est-ce que les hommes à qui vous poseriez la même question n'auraient pas la même pudeur ou la même courtoisie, ou la même modestie, ou la même interrogation. Est-ce qu'un homme à qui vous dites « vous êtes un homme puissant », vous répondrez pas « puissant, je sais pas, puissant parce que oui, je suis président de je sais pas quoi, et donc du coup je peux faire des choses ». Je sais pas, il faudrait voir. Enfin, je suis pas sûre que des hommes répondraient de manière extrêmement assumée. Oui, moi je suis super puissant, voilà, il y a Superman, après il y a moi. Enfin, je suis pas sûre de ça.
Ouais. Est-ce que vous êtes ambitieuse ?
Oui, mais ça dépend comment on entend l'ambition. Moi, j'aime faire des choses que je sais pas faire. J'aime me faire peur en me disant, enfin me faire peur. Je m'ennuie vite, quoi. Donc j'ai toujours envie de faire plus de choses et d'avancer et d'essayer des trucs qui ont l'air super difficiles. Et donc ça, c'est une forme de moteur qui est une forme d'ambition. Après, l'ambition au sens faire carrière, cocher des cases, avoir des badges, etc. Ça m'intéresse pas. C'est plutôt une conséquence du fait que vous faites des choses, mais en soi, ça m'intéresse pas.
C'est la prise de risque qui vous amuse.
Ouais.
Ou gagner un auteur. Ça
j'aime bien. Ouais.
On vous a demandé, comme à toutes les femmes, un objet qui vous ferait penser à une femme puissante.
Oui, c'est un livre, et en particulier Une chambre à soi de Virginia Woolf. Ce qu'elle crée, à savoir que pour que les femmes puissent avoir leur propre génie, leur liberté de créatrice, leur liberté intellectuelle, elles ont besoin de deux choses, c'est-à-dire de temps et d'une chambre à soi, et que les conditions matérielles sont en fait la clé pour pouvoir libérer et devenir qui on est et devenir libre en fait. Cette façon qu'elle a de le raconter, pas vindicative mais assez clinique, émouvante et poétique, la domination des hommes sur les femmes dans le roman, dans la littérature.
Sur leur espace et sur leur temps.
Sur leur espace, sur leur temps et même donc sur leur esprit. A été pour moi une grande claque et ça m'a jamais quitté ça.
Vous avez la même référence que Leïla Slimani qui nous a parlé aussi d'une chambre à soi de Virginia Woolf et qui explique qu'elle a besoin de son bureau dans la maison, elle a besoin de sa pièce à soi.
Ouais. Ah ben, je suis très contente, ça ne m'étonne pas. Mais oui, c'est indispensable. C'est pour ça que je pense que les open space. Tout à coup, je baisse beaucoup le niveau de référence, mais je pense que les open space, c'est vraiment, je suis sûre que c'est un homme qui a inventé l'open space, par exemple.
Pourquoi ?
Bah parce qu'ils ont des endroits à eux, chez eux. Enfin, parce que penser que tu peux ne pas avoir un endroit à toi au bureau, que c'est indispensable pour que tu puisses être avec les autres et travailler avec les autres, je pense que c'est plus...
Vous avez besoin de la fermer, cette porte.
Ah oui, oui. Il y a des moments où elle est ouverte, il y a des moments où elle est fermée, et surtout, là, on a refait tous les bureaux, etc. Et c'était capital pour moi que tout le monde ait sa porte, enfin, que tout le monde ait un endroit à soi.
Donc, vous êtes très anti-open space.
Ah oui, je pense que vraiment, je comprends même pas, en fait. Pour moi, c'est une vision de l'enfer au travail.
Ouais. Ah oui, à ce point. Ouais. Et là, dans ce bureau qui est donc votre entre à vous, qui est fermé, il y a beaucoup de dessins et de photos. Il y a quoi, là ?
Il y a quoi ? Il y a un dessin de Sempé que j'ai piqué chez mes parents.
Qui représente quoi ?
Qui me fait beaucoup rire, comme tous les dessins de Sempé. C'est une séance de dédicace où il y a un auteur, un veste à carreaux, qui est devant une petite dame enchantée de le rencontrer et qui lui dit « Je me retrouve tellement, mais tellement dans chacun de vos ouvrages, c'est tellement moi. Pouvez-vous me signer celui-ci à Marie-Luce, sans qui ce livre n'aurait pas existé ?» Et je trouve ça absolument délicieux.
Sophie Closet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne des médias, éditrice, vous avez consacré un livre à Lecture pour tous.
Vous avez 36 ans, vous dirigez au fond une grande maison patrimoniale.
PDG de la maison d'édition Fayard.
Fayard qui édite ou réédite ce mois-ci, entre autres, Edgar Morin, Christophe Jaffrelot, Jean-François Kahn, Jacques Attali, Frédéric Lenoir.
Comment est-ce qu'on est et on en ressent ce besoin des livres?
Les livres, je suis un peu née dedans.
Sophie de Pezet, vous êtes, en tant que PDG des éditions Fayard, une femme de pouvoir.
Femme de pouvoir, je vous laisse.
De fait.
Oui, ok.
Les ventes de livres en France ont baissé de 6% selon une étude de GFK.
Où est l'avenir du livre numérique chez le lecteur, dans son passé?
Les trois à la fois, je pense.
Événement éditorial, pop culture et politique du jour, la sortie mondiale du livre de Michelle Obama, ça s'appelle Devenir. Tous les éditeurs se sont battus pour l'avoir. C'est Sophie de Closet qui a gagné, la voici.
Si Michelle Obama était en face de moi, qu'est-ce qu'elle me dirait?
Good morning.
On peut aimer le rap et diriger Fayard.
Ah, j'espère bien, oui. En tout cas, c'est mon cas, donc ça doit être possible.
Sophie de Closet, il y a un portrait de vous dans le JDD où on peut lire « Normalienne, agrégée d'histoire, super mari, super enfant, dirige Fayard à moins de 40 ans et en plus, elle fait des gâteaux ». Vous êtes angoissante, en fait.
Alors moi, je trouve que ce qui est angoissant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un portrait, il faut que je me justifie sur est-ce que je quand même j'élève un peu mes enfants. Donc à chaque fois, enfin beaucoup, on m'a beaucoup demandé, mais par exemple, est-ce que vous faites des gâteaux pour l'anniversaire, qui a l'air d'être une préoccupation pour des journalistes. Je suis pas sûre que Claude Durand, Olivier Nora, qui ont été patrons de Fayard avant moi, on leur a beaucoup demandé s'ils faisaient des gâteaux d'anniversaire pour leurs enfants.
Vous pensez que c'est des préjugés en permanence où on est obligé d'une certaine manière de les ramener à... Elle fait en plus des gâteaux?
Oui. Donc si t'avoues, bah oui, ça peut m'arriver de faire des gâteaux. En plus, moi, j'aime bien faire la cuisine, mais ça n'a vraiment aucun intérêt par rapport au fait de publier des livres, de diriger une maison comme Fayard qui a 160 ans. Enfin, quel intérêt ça a et pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois?
Peut-être parce qu'on a besoin d'humaniser les femmes davantage dans un portrait.
Oui, mais pourquoi la seule façon de l'humaniser, c'est de les renvoyer à un rôle, de les assigner à résidence, d'un rôle de mère? En plus, je trouve que pour les autres femmes, c'est pour le coup, vous me dites, c'est angoissant. Mais en effet, c'est super angoissant. Tout ce qu'on lit dans la presse féminine, moi, je suis la première à me dire, mais c'est... Ah là là, elle gère sa boîte, ses enfants ont l'air super, elle arrive à faire un soin du visage tous les mois, elle fait une heure de jogging par jour et elle est toujours présente pour ses parents et ses amis. Tu te dis, mais ces journées font trois jours. Enfin, de quoi parlons-nous? Et donc, oui. C'est une vision qu'on t'impose qui est incroyablement pesante. Et tant qu'on ne se sera pas émancipé de cette espèce d'obligation, de perfection sur tous les domaines, on sera pas émancipé de cette culpabilité qui pèse sur nous. On se dit en permanence, mais on coche tous les trucs qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'en fait, personne n'arrive à faire ça.
Vous vous dites, je ne souffre pas du syndrome de l'imposteur, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est ça qui bloque les femmes, ce plafond de verre qui les entrave. Comment on se défait de ce syndrome de l'imposteur qui revient tout le temps dans les interviews que je fais avec les femmes, où Christiane Taubira dit « j'ai réglé mon compte avec la peur », par exemple, avec la peur d'être une imposture aussi. Comment vous l'avez réglé, votre compte, vous, avec le syndrome de l'imposteur ?
Je pense que c'est en partie une réalité. C'est-à-dire que moi, quand Olivier Nora, qui était patron de Grasset et de Fayard, m'a dit « voilà, je vais revenir chez Grasset parce qu'en fait, on ne va pas fusionner les deux maisons », on se demande qui pourrait prendre la tête de Fayard et est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais considérer, etc. Mmh. Moi, j'étais enceinte, j'avais 34 ans et spontanément, je lui dis, ben non, c'est n'importe quoi. Enfin, ça me paraissait même pas très respectueux de cette maison, en fait.
Ah ouais, ouais. Parce que vous étiez trop jeune?
Parce que j'avais pas d'expérience de direction de quoi que ce soit, parce que si j'étais enceinte et que je me disais, c'est impossible.
Et alors,
quoi.
Pourquoi vous avez accepté ?
Eh ben, parce qu'il a arrêté de me demander mon avis et quand
vous
j'ai.
Vous avez nommé de force.
Et Arnaud Nourry, qui est le patron d'Hachette Livre, 3 semaines après l'accouchement, m'a vu en disant, ben voilà, je vous nomme. Et là, savoir que 3 personnes pour lesquelles j'ai énormément d'estime avaient l'air sûres d'eux, ça m'a tout à coup investi dans la fonction.
Une femme qui n'a pas 40 ans, qui a 35 ans à peine, qui est nommée et bombardée patronne d'une grande maison d'édition, ça crée forcément des jalousies, non ?
Oui, j'imagine, mais ça, c'est pas mon... C'est le problème des jaloux.
Ouais. Est-ce qu'il y a une solitude du pouvoir ?
Oui, ça fait partie du job, je pense. Forcément, on est le seul à avoir une vision surplombante et à tout savoir. Mais en même temps, elle est compensée par cet élan collectif, quoi. Par le fait que c'est vraiment une équipe. Et voilà. Moi, j'étais stagiaire en 2003 dans cette maison, donc j'ai pas l'impression d'être rarement seule.
Votre fée de gloire, cette année, c'est elle.
From the south side of Chicago, welcome Michelle Obama! Coming in and all the banners around the stadium for becoming... People lined up to come in. And of course, I missed all that because I still come in the back way. Can we go out the front door? Just so I can see my sign.
Michelle Obama chez Oprah Winfrey dans un stade plein et déchaîné de Chicago. Michelle Obama, c'est une femme puissante.
Ah oui. Oui, c'est une femme puissante. En tout cas, l'effet qu'elle fait, le charisme qu'elle dégage, le message qu'elle porte, l'enthousiasme qu'elle soulève dans le monde, ça, c'est un signe de puissance, oui.
Comment vous expliquez l'immense succès de ce livre-là ?
C'est un bon livre. Et quand même, il y a un moment où ça joue. C'est vraiment un livre formidable. Je pense que ce qu'elle incarne et la manière dont elle le raconte, avec une sincérité qu'on n'attendait pas pour une personnalité de cette envergure, a beaucoup plu et séduit et surpris. Et puis, elle séduit les femmes énormément. Moi, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés avant la publication qui me regardaient avec un air navré en disant « Mais elle a juste épousé un président, en fait. Ça n'a aucun intérêt. » Alors que toutes les femmes étaient extrêmement enthousiastes et impatientes de livres.
Mais en fait, elle a fait quoi d'autre que d'épouser un président ?
Elle a déjà un parcours, elle, toute seule, du sarsal de Chicago, où elle arrive au top, à une position incroyable, extrêmement jeune, après des études brillantes dans un cabinet d'avocat américain. Elle est promise à une carrière hyper brillante et en effet, elle rencontre Barack Obama, son destin dévisse, et elle met sa puissance au service de leur destin commun et de sa vision à lui.
Mais c'est vrai que c'est ce qui est un peu étonnant, c'est-à-dire que, comme vous dites, elle était brillante, elle a fait Princeton, ouais. Elle a fait Harvard, et elle décide de se mettre dans l'ombre de son mari. Elle aurait pu, elle, être... Je ne sais pas si présidente des États-Unis, mais en tout cas, elle décide volontairement de mettre le couvercle sur...
Oui, alors c'est un processus qu'elle raconte et qui est long et qui ne va pas de soi, mais elle se rend compte qu'il est habité par une vision, par un destin et par une ambition qui peut avoir des effets positifs et historiques sur son pays et qu'il est temps qu'elle l'aide, qu'elle le soutienne et qu'ils y arrivent à deux. Et d'ailleurs, la deuxième partie du livre, c'est Becoming Us, et c'est vraiment la construction d'un couple.
Vous pensez que cette image du power couple, comme on dit, du couple de pouvoir, c'est quelque chose qui fait rêver les gens ?
Je sais pas si ça fait rêver les gens. En tout cas, cette réussite-là en commun, ce couple qui, alors qu'elle explique les épreuves qu'ils ont traversées, que ça n'a pas toujours été très simple, qu'elle a eu parfois envie comme elle le racontait sur la scène de Bercy, de le jeter par la fenêtre juste pour qu'il se fasse un petit peu mal. C'est un couple qui nous ressemble et en même temps qui a un destin complètement incroyable. C'est une super belle histoire. Et maintenant, ils réinventent leur vie post-Maison Blanche d'une manière qui est assez enthousiasmante.
Vous dites qu'elle est sincère, qu'elle est charismatique, sans aucun doute, mais c'est vrai que quand on l'écoute dans ses conférences qu'elle a fait, elle en a fait une à Paris, elle en fait partout dans le monde pour vendre le livre, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu tarte à la crème dans sa manière de dire si vous le voulez, vous le pouvez, si vous devez y croire, vous êtes les meilleurs, vous les femmes. Enfin, il y a quelque chose, moi, qui m'a semblé un peu très américain dans la manière
Alors, je pense que peut-être que vous êtes arrivée, Léa, à un moment d'émancipation et de vous embrasser la puissance qui est la vôtre de telle sorte qu'on n'a pas besoin de vous empowerer beaucoup et que donc ça, voilà, porte moins. Peut-être aussi que ce qu'il faut se demander, c'est quand est-ce qu'on n'aura plus besoin de ça, en fait. Et à Bercy, 60% des femmes étaient noires dans le public. Et à Londres, 60% des femmes étaient noires dans le public.
Ça veut dire quoi ?
Ben, peut-être que ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle.
Pas suffisamment de modèles
qui parlent assez fort, qu'on écoute, qui sont assez puissants. Or, du monde du showbiz, dans le milieu économique, dans le milieu politique, il y a des figures, mais il n'y en a peut-être pas assez pour se projeter. Il faut se dire que c'est possible, il faut aussi regarder quelqu'un qui vous a montré la voie.
Que c'était possible. Vous avez publié l'autobiographie de Michelle Obama, mais aussi Hillary Clinton et Ségolène Royal. Oui. Est-ce que vous pouvez me comparer ces trois femmes puissantes, puisque je pense que vous convenez que ce sont trois femmes puissantes, et me comparer leurs puissances respectives, vous qui les avez publiées, donc fréquentées?
Bah, elles sont toutes les trois très brillantes, elles sont toutes les trois très instinctives. Enfin, il se passe quelque chose quand elles entrent dans la pièce, vraiment. Je l'ai vu, c'est assez impressionnant. Ségolène Royal, c'est celle avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir le plus travailler. Et de fait, elle est épatante parce que elle écoute vraiment les gens. Et puis après, elle décide en fonction de ce qu'elle a entendu. Et puis elle fait en sorte que ça advienne. Et elle le fait vraiment, elle co-construit pour de vrai. C'est-à-dire qu'elle a insufflé dans la maison un vrai esprit d'équipe en faisant des réunions d'équipe qu'elle animait. Elle écoutait vraiment les gens. Enfin, il y avait en tout cas une combinaison que je trouve assez rare, en tout cas que j'ai rarement vue, de sens du collectif et en même temps de vraie vision et détermination.
Ségolène Royal.
Pour un certain nombre d'hommes, dont le cerveau n'a pas beaucoup évolué, les femmes sont encore des intruses en politique. Je n'ai retenu que les attaques venant de mon camp. Les attaques qui viennent de l'adversaire, même si c'est dégradant, c'est malheureusement la vie politique. Mais quand ça vient de votre propre camp, donc ce que j'explique, c'est que finalement, une femme qui avait l'outrecuidance de pouvoir penser qu'elle pouvait accéder à la fonction suprême, avait déchaîné des violences dans la bouche des hommes qui considéraient que finalement je leur prenais leur place d'une certaine façon, alors que j'avais été démocratiquement désignée par une majorité d'adhérents, de militants. Mais cette légitimité-là, elle m'était refusée tout simplement parce que j'étais une femme.
C'est Ségolène Royal, chez On n'est pas couché, qui raconte son expérience et le sexisme en politique en 2007 quand elle était candidate à la présidentielle. Le sexisme, il y en a aussi dans le milieu de l'édition?
Oui, il y en a partout. Alors après, le milieu de l'édition a cette particularité d'être extrêmement féminisé.
Récemment d'ailleurs, c'est un mouvement qui...
Oui.
Qui s'est accéléré ces dernières années.
Oui, ça s'est sans doute accéléré depuis une dizaine d'années. C'est même difficile de recruter des hommes.
Ouais. Vous souffrez du problème inverse.
Oui. Les lecteurs, pour autant qu'on les connaisse, sont majoritairement des femmes. Et donc du coup, c'est plutôt un secteur extrêmement féminisé. Il n'en reste pas moins que, oui, il y a évidemment un sexisme latent et que maintenant, les femmes sont tellement nombreuses depuis si longtemps dans l'édition qu'elles accèdent à des postes de pouvoir. Elle monte, mais il y a eu très très longtemps une batterie d'assistantes, d'attachées de presse, de jeunes éditrices qui étaient confrontées à des journalistes, responsables de salon, des auteurs qui parfois étaient dans un monde un peu archaïque dans les relations hommes-femmes, et donc oui, ça a pu être compliqué.
Cette femme, en revanche, qu'on va écouter, je crois pas qu'elle a souffert d'une forme de mépris de la part des hommes, parce qu'elle avait du caractère, beaucoup de caractère.
Françoise Verny, comment dirige-t-on une maison d'édition ?
Eh bien, je ne sais pas.
Je suis dans ce métier depuis plus de 20 ans, je n'ai pas toujours eu des postes de responsabilité, mais assez vite, je ne sais toujours pas comment on dirige. Parce que je ne parle pas là de la direction générale qu'assume par exemple Claude Gallimard chez Gallimard, mais je parle de la direction littéraire, c'est très difficile parce que ça dépend de chaque auteur. Tout est différent selon les auteurs, voilà.
Françoise Verny, vous vendez à la fois du rêve et du papier, qu'est-ce qui est le plus important ?
Mais on vend très bien le papier quand on vend bien le rêve. Ouais. C'est donc très difficile de...
Est-ce qu'on peut vendre du papier sans vendre du rêve?
Ben non.
Ça arrive à certains éditeurs, peut-être?
Oui, mais tout de même, ce qu'on cherche, c'est tout de même à vendre ce qu'on appelle de la mythologie, donc du rêve.
Est-ce qu'on peut vendre du papier sans vendre du rêve?
Non, je crois pas.
C'était qui, Françoise Verny?
Françoise Verny, c'était une éditrice... brillante, incroyable, charismatique, qui a été chez Grasset, chez Flammarion, dans les années 70-80, c'est là où elle était au summum de son rayonnement, qui a découvert beaucoup d'auteurs, qui a été l'éditrice de mon père, que voilà, que j'ai eu la chance de connaître, et qui était une femme d'une intelligence, d'une générosité et d'une vision incroyable.
Et quand on écoute une autre grande éditrice, Teresa Crémisi, qui parle de sa relation à ses auteurs, et notamment à Michel Houellebecq, on a l'impression qu'il y a toute une notion aussi où elle est son infirmière, elle est sa nounou, elle est sa confidente, elle est sa psy. Est-ce que vous avez ce rôle-là, vous, avec certains de vos auteurs, d'être une nounou ?
Là encore, je ne sais pas si on demande à Antoine Gallimard s'il est nounou.
Non, mais elle le dit elle-même.
Oui, bien sûr.
Elle a dû le porter, souvent.
Moi, ce que je crois et ce que j'ai observé, c'est que c'est tellement difficile d'écrire. Si vous avez le choix, si votre rapport au monde peut se régler différemment, vous le faites pas. C'est trop difficile. Quand je croise des gens qui me disent « Ah, c'est dommage, j'ai pas le temps, sinon j'écrirais un roman comme je sais pas qui », ben non, en fait, non. Tu l'écrirais pas. Parce que tu choisis pas. Parce que c'est une urgence, c'est une nécessité. Parce qu'en fait, c'est tellement difficile, c'est un exercice solitaire, que vous portez pendant des mois, quel que soit le genre de ce que vous écrivez, et ensuite, vous le donnez à quelqu'un, un éditeur, à qui vous faites quand même un cadeau et un acte de confiance insensé, qui va s'emparer de ce texte que vous avez porté seul, dans lequel vous avez mis énormément de vous, et qui va progressivement entamer un processus de dépossession pour en faire un objet public qui ne vous appartient plus tout à fait. Et après, la sortie d'un livre, c'est une expérience quand même de votre insignifiance sur Terre. C'est-à-dire que aucune réception, aussi fantastique soit-elle, ne peut être à la hauteur de ce que vous avez mis dans ce livre-là. Donc, forcément, c'est des moments qui sont déstabilisants, et forcément, l'éditeur est là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible.
Quel livre vous avez raté, Sophie de Closet?
Quel livre j'ai pas réussi à avoir?
Ouais.
Pas mal.
Que vous vouliez beaucoup et ça vous est passé sous le nez.
Par exemple, Sapiens d'Harari.
Ouais.
L'agent me l'avait donné à lire en anglais et j'avais dévoré ça dans la nuit et je m'étais dit c'est incroyable. C'est vraiment l'efficacité narrative est formidable, ça va beaucoup marcher. Et puis après, il y a eu des enchères qui se sont un peu envolées. Et puis on s'est arrêté.
À un moment.
Et on n'aurait pas dû sans doute. Et voilà.
Qui l'a eu ?
Albin Michel. Parce qu'on sait toujours après si on a payé trop cher ou pas assez cher un livre.
Et alors justement, vous avez payé combien le Michel Obama ?
Non, mais je vous le dirai pas.
C'est un secret d'État,
c'est un secret, pas d'État, mais c'est un secret.
Est-ce que vous avez payé plus pour le Michel Obama que pour le Hillary Clinton ?
Ah oui.
Ah oui. C'est le livre le plus cher publié par Fayard ?
C'était deux livres.
Enfin, oui, parce qu'il y a le Barack Obama, le
livre de Barack Obama et le livre de Michel Obama. Oui, c'est un gros contrat, oui. Mais après, encore une fois...
Un gros contrat, c'est quoi ? Juste pour donner aux auditeurs un ordre d'idée, je ne vous demande pas le chiffre, mais c'est plusieurs millions ?
Non, je mets les Obama de côté. Généralement, le contrat, en fait, on donne une avance. Une avance, c'est un pourcentage sur les revenus de la vente des livres. Donc du coup, c'est en gros notre prise de risque, le contrat et l'avance. Puisque l'avance, elle est garantie que le livre se vende ou vende pas, l'auteur la conserve. Donc du coup, vous savez, si vous faites un pari, vous savez un an et demi après, si vous avez fait un pari, parfois il y a des livres où vous mettez 8000 euros d'avaloir, et en fait c'était un pari complètement absurde parce que vous avez vendu 200 livres, et puis parfois vous pouvez donner 150 000 euros d'avaloir, et puis en fait le livre a rapporté 4 fois plus.
Ouais.
Donc généralement les auteurs touchent entre 8 à 15% du prix de vente hors taxe.
Donc les Obama, combien ?
Et je vous dirai pas.
Plusieurs millions quand même, là.
Je vous dirai pas.
Ça coûte forcément cher, pour gagner.
Pour gagner, la question c'est, une fois un an et demi après la publication du livre de Barack Obama, est-ce qu'on est rentré dans nos frais ou pas ? Je pense qu'on sera rentré dans nos frais.
Il y a un livre polémique dont on parle beaucoup, depuis des années, sur lequel Fayard travaille. C'est une édition annotée de Mein Kampf. Mein Kampf réédité par Hitler. C'est une très mauvaise idée, dit Jean-Luc Mélenchon.
C'est
c'est un texte criminel. Ce texte, c'est la condamnation à mort de 6 millions de juifs et de 50 millions de personnes qui ont été plongées dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors on me dit, oui, mais ça sera accompagné de remarques critiques. Mais quelles critiques voulez-vous qui soient données supérieures aux faits eux-mêmes, ces meurtres de masse?
Alors vous lui répondez quoi, Mélenchon?
Il prend critique au sens, on dit que c'est pas bien. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir si presque 100 ans après la publication de ce texte, il n'est pas temps d'en faire un objet de savoir, de raison. Et si on pense pas que l'histoire, la science, peut arrêter de faire de ce livre un fétiche maléfique. En fait, je ne sais pas de très bien de quoi il a peur. C'est le rôle qu'il a été. C'est quand même paradoxal de penser...
Il est toujours le Mein Kampf quand on se le procure. En général, ce n'est pas que les historiens qui se le procurent quand on a une...
Mais c'est bien pour ça, je pense qu'il faut en faire un objet... Enfin, en tout cas, que notre projet d'analyse et d'édition de Mein Kampf est un projet scientifique sur lequel travaillent à peu près une quinzaine d'historiens depuis des années qui reprennent l'édition allemande, et il y aura plus de textes d'historiens dans le livre qu'on va publier que de textes d'histoire.
Il va sortir quand, Mein Kampf ?
L'an prochain.
Donc vous assumez, vous irez jusqu'au bout ?
Ah bah oui, bien sûr, on en est très fiers de ce projet.
Gallimard a eu tort donc, selon vous, de différer la publication des pamphlets de Céline ?
J'en sais rien, je pense que les deux projets, je ne sais pas assez sur le projet, parce qu'il n'a pas été vraiment explicité, de publication des pamphlets de Céline, je ne sais pas très bien ce qu'il était, mais en tout cas ce que je pense, c'est que ce sont deux projets qui n'ont rien à voir, et deux textes qui n'ont rien à voir. Mein Kampf, c'est un des livres les plus importants de l'histoire du XXe siècle, et c'est un livre qu'on
peut
pas...
Vous pouvez le dire comme ça
Comme l'archipel du Goulag, comme le petit livre rouge, il y a peu de livres qui ont changé l'histoire, ou en tout cas qui ont un rôle atroce, barbare, criminel, mais en tout cas qui ont un rôle. Voilà, pour moi, c'est un constat. Et ce livre-là, c'est pas encore un objet d'histoire. On peut même pas le lire en français tel qu'il a été écrit. Il n'y a pas de traduction. La traduction qui est disponible et qui se vend assez bien depuis des années, c'est une traduction qui a été faite dans les années 30 et qui rend le texte beaucoup plus aimable qu'il n'est en vrai, parce que c'est un texte qui est extrêmement dérangeant, extrêmement problématique, même à tout point de vue, et qui n'a jamais été analysé comme tel. Et en l'analysant, on comprend beaucoup de choses sur la manière dont le nazisme a émergé, sur l'apport qu'a eu Hitler, sur comment il s'est nourri du climat intellectuel, idéologique, politique de cette année, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du nazisme. Je pense qu'il y a vraiment un apport scientifique et je ne vois pas pourquoi ce livre-là, seulement ce livre-là, ne pourrait pas faire l'objet d'être un objet de savoir et un objet de science. Je pense qu'au contraire, si on veut que ça se reproduise plus, il faut savoir vraiment très précisément ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé.
Vous espérez en vendre beaucoup des Mein Kampf ?
C'est pas du tout notre préoccupation. C'est pas une entreprise commerciale. On va reverser tous les bénéfices du livre et on espère pas du tout. On fait pas ça du tout pour gagner de l'argent.
Vous allez le reverser à qui ?
On est en train de signer. On reversera
une
association qui s'occupe de la mémoire de la Shoah.
Tout autre chose, on vous a demandé de choisir une musique pour incarner les femmes puissantes, vous avez choisi ça.
Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant pianoter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimée ici impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au fort jartel et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir
présidence et de la faire border la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte d'idéal, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge.
Femme des années 80, sexy jusqu'au bout des seins et ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Sophie de Closet, ça pourrait être votre définition, sauf que vous êtes femme des années 2010.
Non, je crois pas. Mais en fait, je pense qu'il y a un lien entre Virginia Woolf et Sardou.
Et Michel Sardou, ouais. D'accord.
C'est-à-dire que...
Lequel? Là, tout de suite, je vois pas.
Ah, voilà. Eh ben non, dans Une chambre à soie dont on parlait tout à l'heure, Virginia Woolf, elle dit que les femmes sont partout présentes dans la littérature et qu'elles sont toujours définies par rapport aux critères des hommes. Et qu'en fait, elles sont investies du pouvoir magique d'être un miroir grossissant pour les hommes et les investir de leur pouvoir. Et Femme des années 80, qui est l'archéologie des clichés de la femme puissante, avec laquelle, moi, je suis née en 78, donc la chanson doit être de 80, donc j'ai grandi avec cette bande-son. Je choisis pas toujours, bah ouais. Vous aussi, peut-être. C'est quoi? C'est une femme puissante dans cette chanson, dans le texte de cette chanson, c'est une femme vue selon les critères de réussite des hommes et les clichés qu'un homme macho peut poser sur une femme sexy et séduisante. Donc c'est vraiment exactement ce qu'elle décrit. C'est-à-dire que les femmes n'existent dans les œuvres de création de fiction que par rapport à des critères purement masculins.
On va parler de l'homme de votre vie maintenant. Qui parle de vous?
C'est une chance extraordinaire d'avoir sa fille pour éditrice. Pourquoi? Bon, bien sûr, il y a le deep sublimé, travailler avec sa fille, c'est bon. Mais c'est pas seulement ça. C'est que, sur un texte, elle a des jugements très rapides, très sûrs, très précis. Très souvent, vis-à-vis d'un auteur comme moi, qui a un certain nombre de best-sellers au compteur, une jeune éditrice hésitera à dire, ben non, ça va pas, à dire, oh non, mon Dieu, pourvu. Il y a toujours, il y a une censure. Or, dans le cas précis, évidemment, il n'y en a aucune. Voyez-vous, quand j'ai voulu faire mon autobiographie, elle couvrait toute ma vie. Et ma fille, un jour, m'a dit, écoute, passé 40 ans, c'est plus le même livre, on ne peut pas mettre deux livres en un, donc on arrête tout à 40 ans. Et vous comprenez bien que
un auteur...
Qui s'entend dire par son éditrice qu'il faut ficher en l'air la moitié de son livre. Mais oui, il le fallait. Et d'un autre côté, elle n'avait aucune réticence à me le dire.
François de Closet, donc, dans À voix nue sur France Culture. Sophie Closet, vous êtes une fille à papa?
Oui, sans doute. En tout cas, j'ai eu une chance, parmi mille chances insensées, notamment celle de grandir dans la famille où j'ai eu la chance d'être née. Et c'est relativement rare de faire de son Oedipe son métier, en fait.
Il est dépassé, l'Oedipe, avec papa?
J'en sais rien, je me pose pas la question, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'avantage inouï, outre le fait d'être né évidemment dans un milieu à Paris, dans un milieu cultivé, où il n'y avait pas de problèmes de matériel, entouré de livres, et où vraiment le cœur de la vie c'était les livres, et évidemment une chance insensée parmi beaucoup d'autres. Moi, j'ai pas appris ce que c'était qu'un auteur. Moi, j'ai vu toujours mon père écrire, publier des livres, et donc du coup c'est quelque chose qui m'a toujours paru naturel, évident, et ça c'est un avantage incroyable.
Votre père vous disait, tu as tout pour devenir une pimbèche, une abominable enfant gâtée.
Ouais. Il était toujours très inquiet, je crois. Oui, de
il
fait...
Il est toujours très inquiet.
Non, je sais pas. Je sais pas s'il est encore inquiet ou pas. Mais oui.
Vous êtes devenue une abominable enfant gâtée, ou comment vous avez pu ne pas l'être?
J'espère pas. En tout cas, lui, il est né dans une famille qui était totalement déclassée socialement. Ils étaient 8 frères et sœurs dans 60 mètres carrés en gain. Il a vécu dans une grande indigence, mais un déclassement économique. C'est-à-dire que malgré tout, le fait de faire des études allait de soi. Et donc lui m'a toujours dit, avec une vraie angoisse sincère et aimante, c'est affreux pour toi parce que tu as tellement de chances géographiques, économiques, sociales, génétiques, culturelles,
culturel, ça va être compliqué d'être à la hauteur de ces chances-là. Et de fait, je pense que, je serai jamais à la hauteur de ces chances-là.
Est-ce que vous avez lu dans les yeux de certaines personnes, elle est là, elle a ça parce qu'elle est la fille de son père?
Oui, peut-être, mais ils ont raison, ils ont tort. C'est-à-dire qu'ils ont tort parce que c'est pas mon père qui a passé un coup de fil, mais ils ont raison. Moi, je suis vraiment née dans des livres, quoi. Il y en avait partout à la maison, ma mère était critique littéraire, c'est une chance insensée.
Est-ce qu'on peut tout avoir, comme les hommes, une carrière, une grande carrière, une vie amoureuse épanouie, une vie familiale épanouie, une vie de mère épanouie? Ou est-ce qu'on en est encore à devoir faire des sacrifices?
Mais je suis pas sûre qu'ils ont tous, les hommes. Est-ce qu'ils font des gâteaux pour l'anniversaire de leurs enfants?
N'en ressortira pas. Bah, c'est quand même plus difficile pour une femme. Je veux bien jouer l'égalitarisme, mais rien que le fait d'avoir un congé maternité, de devoir s'absenter, de devoir s'excuser parfois pour certaines femmes d'être enceinte. Tout ça, ils n'ont pas, les hommes. Ils ont 15 jours de congé paternité et puis c'est bon, on n'en parle plus.
Non, je pense qu'on peut pas tout avoir. Et surtout, je pense que le vrai problème, c'est ce que ça veut dire pour soi, tout avoir. C'est-à-dire que vouloir être ce modèle de perfection, de femme réussie, accomplie professionnellement, amoureuse totalement, libre et en même temps dédiée à ses passions, mère, modèle, qui sait à quelle heure le pédiatre et machin, etc.
Qu'est-ce que vous ratez, vous ?
Plein de choses. Après, je passe mon temps à essayer de compenser. C'est-à-dire qu'on apprend à revoir ses priorités. Moi, j'ai été nommée, je venais d'accoucher. Et la première année, ça a été un tourbillon. Sauf que mon mari était absolument formidable, était plus présent à la maison et donc s'est beaucoup occupé de mon deuxième fils qui venait de naître et que je l'ai pas beaucoup vu.
Donc la première année de vie de votre fils.
De mon deuxième fils, j'étais pas assez là. Son premier mot c'était papa, sa première phrase c'était maman peut pas venir, c'était horrible. Enfin c'était vraiment très très douloureux. Je me suis dit mais si tu marches sur la tête. Et donc du coup j'ai réorganisé les choses de telle sorte que j'emmène déjeuner une fois par semaine, j'ai un temps pour lui, un temps pour son frère.
Mais c'est vrai que quand même quand vous jouez à un jeu de société avec vos enfants, vous les laissez jamais gagner?
Bah j'évite parce que je pense que c'est pas...
Je trouve ça génial.
Mais non, mais parce que
je laisse toujours gagner des enfants quand je joue à un jeu avec des enfants.
Non, mais moi c'est dû à moi. Enfin, on essaye d'être parents en fonction de ses souvenirs d'enfance, souvent ou des souvenirs de ses parents. Moi, je me souviens d'une colère qui m'avait saisie quand je m'étais rendu compte que mon frère m'avait laissé gagner aux petits chevaux, alors que je pensais que j'avais gagné parce que j'avais gagné. Et ça m'a humiliée. Je me suis dit, mais donc ils pensent que je suis jamais capable de...
Vous vengez sur vos pauvres enfants qui doivent perdre face à vous.
Et pas du tout, parce qu'on joue à des jeux auxquels ils peuvent me mettre des sévères raclées.
Ah, donc ils se vengent parfois, ils gagnent parfois.
Bah, évidemment, ils gagnent, et quand ils gagnent, ils peuvent être super fiers.
Quelques questions de fin pour terminer. Vous réfléchissez pas, vous répondez comme ça. Faire un coup ou durer, vous choisissez quoi ?
Durer.
Vous êtes plus Guillaume Musso ou Marc Lévy?
Aurélie Valogne.
Houellebecq ou Carrère?
Oh, c'est dur, Houellebecq.
Michelle Obama ou Hillary Clinton?
Michelle Obama.
Pourquoi?
Parce que Hillary Clinton a une forme de rigidité d'ancien monde, ou de ne pas reconnaître ses erreurs, ou de ne pas avoir fait un travail d'introspection assez sincère. Ça m'a un peu... Voilà, déçue, je pense qu'elle aurait gagné à comprendre vraiment ce qui s'était passé et que c'était pas juste la faute de Trump ou des Russes.
Avouez une très mauvaise pensée.
Bah, je crois qu'on a fait le tour avec cette histoire de jeu de société avec mes enfants, hein, c'est bon.
Votre plus grande colère?
Je me mets assez rarement en colère. Elle est très personnelle, elle passera jamais.
Vous en voulez à quelqu'un et...
Ouais.
Et ça passera jamais?
Jamais.
Vous êtes rancunière?
Non, c'est quelqu'un qui est plus là. Mais je lui en voudrais toujours.
Votre plus grand défaut ?
Oh là, j'en ai plein. Le pire, je pense que je suis très impatiente.
Et Dieu dans tout ça ? Question Jacques Chancel.
J'ai eu une petite crise mystique au début de l'adolescence. Et puis après, ça s'est éloigné. Et donc j'ai perdu la foi en chemin. Mais il reste quelque chose là qui m'interroge et que j'ai sans doute pas résolu.
Merci Sophie de Closet.
Merci.
Merci
Salamé.
Merci de nous avoir reçus dans votre bureau.
Merci.
Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se
est belle, on saute sur une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
C'était Bovary par Clara Luciani. Clara Luciani qui nous a accompagnés tout l'été puisqu'elle signe notre générique La Grenade. Cette émission a été préparée par les merveilleux et merveilleuses Outi Shraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Lequès et Marie-Elisabeth Jacquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Dibert, à la prise de son Lucien Lefebvre, à la réalisation Les Doigts en Or de Sonia Leglen. Voilà, c'était la dernière de la série Femmes Puissantes. Bel été à tous et à toutes, les femmes puissantes et les autres.